Alors donc ce matin, c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver dimanche après dimanche. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, donc dans l'épître de Jacques, donc au chapitre 4, et nous lirons les 12 premiers versets. Donc c'est vraiment dans la continuité de mes prédications. Donc l'épître de Jacques. Donc jusque-là, on a abordé plusieurs thèmes. Et donc, on aborde un nouveau thème, donc aussi cher à Jacques, que nous verrons ce matin. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles déjà pour une première lecture. Jacques 4, 1 à 12. Alors, si vous y êtes, je commence la lecture. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, pardon, il y a un L en trop, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message Les conflits dans l'Église. Leur source et comment les éviter. Quoi de plus naturel que des conflits dans le monde? L'actualité nous en témoigne chaque jour, les événements, n'est-ce pas? Mais entre chrétiens, comment est-ce possible? Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, disait le Seigneur lui-même. L'église est une ordonnance de Dieu. C'est Christ qui l'institue. Pourtant, l'église primitive a connu des divergences entre les apôtres. Je vais prendre juste quelques exemples. En Galates 2, au verset 11, Paul dit ceci: mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Alors c'est un passage qui m'émeut quand je le lis. Hein. Je lui résistai en face. Un peu comme dans les discours aujourd'hui d'homme à homme, je lui résistais en face. Et vous connaissez l'histoire. Les envoyés de Jacques à Antioche étaient venus. Et avant que ceci n'arrive, Pierre mangeait avec les païens. Et dès qu'ils sont arrivés, Pierre s'est un peu défilé. Il refusait de manger avec les païens, de peur d'heurter les circoncis. Vous voyez un carrefour quand même déterminant, important, l'évangile. Pierre, apôtre des circoncis, et Paul, apôtre des incirconcis. Tous sauvés par grâce, par le moyen de la foi, en Jésus-Christ seul. Donc vous voyez, déjà à ce niveau, un point de clivage important. Je lui résistais en face. Et même que pendant le séjour terrestre de Christ, les disciples se demandaient qui d'entre eux aurait le leadership. Vous vous en souvenez? Les disciples eux-mêmes. Alors, j'ai trouvé un passage. Donc, en fait, c'est quand les disciples revenaient d'une mission, donc ils rentraient à Capernaum, et en chemin, ils discutaient. Et voici ce que dit Marc, chapitre 9, dans les versets 33-34. C'est le Seigneur qui les interpelle quand ils sont arrivés à Capernaum. De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc voyez-vous, à nouveau, des disputes, des disciples qui se disputent, ceux que le Seigneur avait appelés. J'ai noté que, aujourd'hui encore, la question du leadership continue de diviser des églises. Ce n'est donc pas nouveau en soi. Quelle a été la réponse du Seigneur à ses disciples, qui d'ailleurs n'avaient pas répondu, mais Christ connaissait leur cœur. Et vous connaissez la réponse. Toujours en Marc 9, nos versets 35. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Quel changement de paradigme! C'est pas tout à fait pareil. Paradigme du monde et le paradigme du Seigneur. La question du leadership n'a pas toujours été la seule source de conflit dans les églises. Je reste toujours sur le plan historique. L'apôtre Paul exprimait ses inquiétudes à propos de ce qui se passait dans l'église à Corinthe. Dans sa deuxième épître, au chapitre 12 et au verset 20, il le dit explicitement, « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Rendez-vous compte, dans l'église à Corinthe. Puis, aux Éphésiens, Paul exhorte. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Vous efforçons. Ça veut dire que c'est pas naturel. Vous efforçons. Que faut-il entendre? Clairement. Faites tous vos efforts. Ce n'est pas un acte naturel. Efforcez-vous. Faites tous vos efforts. Puis, l'unité de l'esprit. C'est le don gratuit du Seigneur. Oui, nous allons parler tout à l'heure. Le don de Dieu. L'Esprit Saint, bien entendu. Puis, Paul poursuit, toujours aux Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Un seul corps, un seul esprit. Peut-on comprendre que les membres d'un corps se disputent, qu'un membre veuille faire ce qu'il a envie et pas l'autre? Quel sera le résultat? Un seul corps, un seul esprit. Aux Colossiens, Paul dit, Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. C'est la racine, règne dans vos cœurs. S'agissant des Galates, Paul va jusqu'à cet avertissement. Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'avertissement est on ne peut plus clair. Alors, pourquoi une église peut-elle connaître des conflits? Pourquoi la paix n'y est-elle pas assurée? Pourquoi faut-il fournir tant d'efforts pour la conserver? Voilà des questions légitimes. Jacques, justement, nous en donne trois raisons. Et aussi le moyen de prévenir les conflits dans l'Église. Et c'est ce que nous allons examiner ensemble ce matin. La première des raisons, première des sources, c'est la chair. Les versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et les querelles dans l'Église? Donc clairement, c'est la chair. Autrement dit, le vieil homme qui habite encore dans le chrétien. première source, la première origine, la première raison évoquée ici par Jacques. Elles viennent de ce que certains membres se battent, c'est le mot utilisé par Jacques, mais en vain, pour avoir par la force ce qu'ils veulent, au lieu de le demander tout simplement à Dieu. C'est ce que nous dit Jacques, demander. Et s'ils le demandent à Dieu, ils ne sont pas exaucés parce qu'ils demandent la satisfaction de leur passion égoïste et non ce que Dieu veut. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Demandez selon la volonté de Dieu pour être exaucé. Ainsi, des conflits entre certains membres de l'Église viennent de conflits en eux-mêmes. La chair, un conflit dont la source est interne à l'homme, en eux-mêmes. Pourquoi? Pour une insatisfaction de leur désir égoïste, que l'apôtre Paul appelle justement les passions de la chair. Celui qui est né de nouveau a certes crucifié la chair avec ses passions, c'est ce que dit Paul en Galates 5, verset 24, mais cette chair crucifiée ne sera définitivement éradiquée que lors du retour glorieux de notre Seigneur. C'est quand nous le verrons face à face que cette chair sera entièrement crucifiée. Mais pour l'instant, ben, elle est là. Et Paul le dit à plusieurs reprises, ce corps de mort qu'il traîne, il est là. Il est présent. Mais est-ce pour autant que le chrétien doit rester dans l'inaction? Est-ce pour autant que nous devons être passifs? Si nous donnons libre cours aux passions de la chair, ils commettront toutes sortes de mauvaises actions. Jacques, en chapitre 3, verset 13, nous le rappelle. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Précisément, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. La liste n'est pas exhaustive, vous pourrez en retrouver les autres à la suite de ce passage. Ceux qui commettent de telles choses, à la fin, donc au verset 21, l'apôtre est très clair, n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, les versets 19 à 21. Aussi, Jacques, comme nous l'avons lu, exhorte à ne pas calomnier ou diffamer des frères. Il dit exactement la même chose que Paul. Seulement, il parle autrement et le dit, ne parlez point mal les uns des autres. Ce que nous avons lu au verset 11. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas reprendre des frères qui sont tombés dans l'erreur ou dans le péché. Loin s'en faut. L'Écriture le commande d'ailleurs. Si ton frère a péché, reprends-le. Ensuite, devant les témoins, s'il persiste, c'est devant l'Assemblée. Donc c'est tout à fait différent de ce cadre dont parle ici Jacques et dont parle aussi Paul. Il s'agit précisément de la calomnie ou de la diffamation. Et justement, il ajoute, Jacques, que ceux qui agissent de la sorte se considèrent comme juges pour condamner et portent ainsi atteinte à la loi divine qui interdit justement de telles calomnies. Précisément, ce que dit Jacques, c'est par le mal de la loi, ces gens-là, et jugent la loi. Donc, ne calomnions pas, ne diffamons pas notre prochain. C'est valable dans l'Église, tout comme dans le monde aussi. Et la parole est très claire là-dessus. Il faut donc marcher selon l'esprit et être conduit par ce même esprit. Pourquoi? Afin de porter le fruit de l'esprit. Que vous connaissez justement ce passage. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, donc, le fruit de l'esprit. Ainsi, ceux qui portent ce fruit dont nous venons de parler, en marchant en toute humilité et douceur, avec patience, se supportant les uns les autres avec amour, contribuent justement à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme Paul l'indique en Éphésiens, au chapitre 4 et des versets 2 à 3. La deuxième source origine que nous regarderons ensemble ce matin, c'est bien sûr le monde. Le monde, donc évoqué ici dans les versets 4 à 5, que faut-il entendre déjà par ce mot, le monde. Le monde, c'est la société en général et l'entourage immédiat, non chrétien, du chrétien. Voilà ce que c'est que le monde. Verset 4, chaque commence par ces termes. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est quand même assez fort le terme utilisé ici. Adultère. Justement, Dieu aime son Église au point d'en être jaloux quand tu lui es infidèle. Adultère. Dieu se place en époux et l'Église son épouse. Justement, dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, Dieu considère Israël comme une épouse adultère, le signe à nouveau que l'Éternel aime son peuple d'un amour sans partage. Nous avons un Dieu jaloux, un amour qu'il ne veut partager. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la loi de Dieu et Mammon? C'est sans partage. Sans partage. Israël s'avérait une épouse adultère en adorant de faux dieux et en concluant des alliances avec des nations idolâtres. Ça parcourt tout l'Ancien Testament. L'infidélité d'Israël, Dieu pardonne. Israël revient. Et ensuite, ça tourne en boucle. À nouveau des infidélités. Et vous avez un exemple encore plus fort, c'est par rapport à Osée. Dieu se place en époux vis-à-vis de son peuple. J'ai pris ce texte dans Jérémie, donc Jérémie au chapitre 3, au verset 8, qui dit ceci, « Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. » L'image est assez forte. Dieu nous aime d'un amour inaltérable et d'un amour sans partage. L'Église de Dieu n'a rien à voir avec le monde. La lumière, les ténèbres, aucune commune mesure. Un amour sans partage. Finalement, quel rapport y a-t-il entre l'amour du monde et les conflits dans l'Église? Revenons à ce qui nous intéresse au plus près ce matin. Quel rapport? Aimer le monde, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est partager les valeurs du monde et se conduire comme le monde. Or, quelles sont donc les valeurs du monde? C'est quoi les valeurs du monde? Alors Jean, dans sa première épître, effectivement, au chapitre 2, donc au verset 15 à 17, lance justement cette mise en garde à l'Église ou aux chrétiens. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ensuite, il en donne l'explication, Jean. Car tout ce qui est dans le monde, savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelles sont donc les valeurs de ceux qui n'aiment pas Dieu et qui aiment le monde, bien sûr? Quelles sont ces valeurs? Premièrement, la convoitise de la chair, comme on l'a lu tout à l'heure, à savoir les désirs de notre nature corrompue par le péché. Premier point. Deuxième point, vu la convoitise des yeux. Donc c'est l'amour de la beauté, séparé bien sûr de l'amour de la bonté. Tout ce qui brille, tout ce qui se voit, l'invisible n'a point de considération. Troisième point, l'orgueil de la vie, le désir d'impressionner par ses accomplissements ou par tout ce que l'on possède. Voilà les valeurs de ceux qui n'aiment pas Dieu aujourd'hui. Ces valeurs qui provoquent sans cesse des conflits justement dans le monde, en provoqueront ou en provoquent également dans l'Église. Entre ceux dont le comportement et les paroles reflètent ces valeurs-là. Premier point. Et ensuite, avec ceux qui, adhérant aux valeurs chrétiennes opposées, cherche à marcher. Comment, donc? À marcher, premièrement, selon l'esprit, et ne pas accomplir les désirs de la chair. Comme Paul nous a rappelé en Galates 5, au verset 16. Deuxièmement, marcher comment? Par la foi et non par la vue, comme Paul le rappelle en 2 Corinthiens 5 au verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est extraordinaire. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Changement total de paradigme. Nous marchons par la foi. Et nous avons de très beaux cantiques, n'est-ce pas? Par la foi, nous marchons. Troisièmement, en toute humilité et douceur, avec patience, se supportant les uns les autres, comment? Avec amour. Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Si donc, dans l'Église, tous se conduisent de ces trois manières que nous venons d'évoquer, alors il sera possible de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Extraordinaire, hein? Le monde et ses attractions. Paul le dit, nous sommes étrangers, voyageurs de passage. Et il le rappelle encore, hein? Il vit sous une tente. J'aimerais bien regagner ma demeure céleste. quitter cette tente. La tente, c'est provisoire. Nous sommes pour un temps dans le monde. Nous n'allons pas y rester et à nous approprier les valeurs du monde. Étrangers, voyageurs de passage. C'est vraiment l'image que nous devons avoir. Et je me rappelle, mon dernier long courrier, mon dernier long voyage, donc en rentrant de Boston, mon avion a pris du retard. J'avais une correspondance à Zurich. Donc l'avion venant d'Europe, donc à Boston, donc il a pris plusieurs heures de retard, et j'avais 30 minutes de correspondance à Zurich. Évidemment, comme il a pris un gros retard, donc toutes les correspondances ont été décalées. J'arrive à Zurich, impossible de prendre mon train pour Marseille, mais eux, ils avaient tout anticipé. J'étais logé à l'hôtel, tout frais payé, tout était là. Donc, je suis resté plus de 24 heures à Zurich. Et voilà l'image. Je n'étais pas en Suisse pour demeurer. Étranger, voyageur de passage. Je suis resté à Zurich. Je me suis promené. Mais je n'ai rien à faire là. Je dois aller à Marseille. C'est ma destination. Alors, quand je me suis souvenu de ce passage de Paul, j'ai dit, mais voilà, de façon pratique. Nous sommes des transitaires dans ce monde. De passage. On n'est pas là pour rester. Et Paul, déjà à l'époque, parlait de sa tente. Une tente. Voilà. Le temps de passage ici sur Terre. Étrangers, voyageurs. Donc si nous intégrons cet appel, ça nous donne plus de recul pour nous éloigner des valeurs du monde. Nous attendons une demeure bien meilleure, notre demeure céleste que le Seigneur a préparée pour nous. Je vais vous préparer une place, n'est-ce pas ? Extraordinaire dessein pour nous. Troisième origine, Jacques le dit au verset 7, le diable, notre ennemi. Traduit du grec, ça veut dire le diviseur. Il le dit au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les ruses de l'ennemi consistent en plusieurs choses. Non seulement à inciter le monde à adopter de fausses valeurs et, comme on l'a vu, toutes sortes de pratiques mauvaises, en Jacques 3, 16, mais aussi à introduire ces mêmes choses mauvaises dans l'Église afin de ruiner son unité et son témoignage. C'est important. Quel est le témoignage de l'Église? Parce que le Seigneur lui dit, Christ a dit que le monde devrait reconnaître ses disciples à leur amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Voilà le témoignage que nous devons rendre au monde. Si l'Église est comme le monde, quel témoignage rend-elle? Voilà les ruses de l'ennemi. Et l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître au chapitre 5, les versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, inébranlable. L'ennemi, rugissant, cherche non seulement à dévorer des chrétiens, mais des églises entières, au moyen des œuvres de la chair courantes justement dans le monde. Comment ? Jacques nous donne la réponse. Résister au diable en nous soumettant, bien sûr, à Dieu, toujours verset 7. Et que faut-il entendre par cette soumission ? Simplement, obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Pour quel résultat ? Toujours verset 7. Il fuira loin de vous. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui en est garant. Il fuira loin de vous. Résistez donc aux ruses de l'ennemi. Ainsi, pour prévenir des conflits dans l'Église, il convient de nous rappeler à la fois le but et les méthodes du diable, et alors de veiller à préserver l'unité du corps de Christ, à savoir l'Église. Ceci doit être notre réflexe. Mettre en perspective les ruses du diable et nous en éloigner pour préserver l'unité de l'Église. Pour être pratique, comme je vous l'ai dit, le message, l'épître de Jacques, c'est la foi en action. Donc ce sont des thèmes qu'il aborde, qui sont très pratiques. Et j'ai relevé quelques points ici par rapport au texte que nous venons de lire. Jusqu'ici, nous avons parlé des trois sources de conflits dans les églises et des solutions correspondantes pour les prévenir. Mais que faire si, en tant que chrétien, nous avons provoqué un conflit avec ou entre un ou plusieurs chrétiens, voire failli provoquer une division? Que faire? Des questions pratiques. Et Jacques nous donne les réponses. La première, c'est au verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Pardon pour mon copier-coller. C'est quand même assez surprenant parce que j'ai une version numérique, donc de second, et je me rends compte que finalement, il y a parfois des erreurs qui s'y glissent. Donc ça demande encore de la vigilance pour un peu rectifier tout ça. Bon, mais c'est un progrès. Alors, donc verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Voilà encore des réponses pratiques lorsque nous sommes, on va dire, en situation de faillite. Verset 9, sentez votre misère. C'est important. c'est la repentance. Est-ce que l'on ressent notre misère lorsque nous avons failli? Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Une repentance du cœur, sincère, devant Dieu. Voilà une réponse. Et enfin, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Voilà la sagesse de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Celui qui s'élèvera sera abaissé. N'est-ce pas? L'humilité devant le Seigneur. Donc voilà, c'est quelques passages que je voulais partager avec vous ce matin. Et j'aimerais prier. Seigneur, nous voulons exalter ton Saint-Nom ce matin, te dire merci pour tes grâces ô combien excellentes. Nous te bénissons parce que l'Église, c'est toi qui l'as ordonnée. Nous te bénissons, Seigneur, parce que au-delà de nos faiblesses, au-delà de ce que nous sommes, tu as suscité en nous la foi. Et nous savons que c'est toi qui la consommeras. Sois loué, sois adoré, Seigneur, parce que nous ne sommes pas orphelins, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci de nous avoir rappelé ce matin la nécessité de conserver l'unité de l'Église par le moyen de la paix. Alors que tu nous donnes à chacun d'être dans des dispositions d'humilité de cœur, que tu veilles, Seigneur, sur nos vies, sur nos paroles, sur nos gestes, en sorte que nous soyons enclins à nous aimer les uns les autres et ainsi à ne pas permettre que les ruses de l'ennemi prennent le pas sur l'unité de ton corps. Merci de bénir toutes les églises dans le monde. Nous savons combien il est parfois difficile, Seigneur, de vivre dans cette unité. Et nous te prions que tu nous visites et que, Seigneur, tu nous revêtes de ton esprit, de ta puissance, de ta force, en sorte que dans l'humilité, nous nous laissons conduire et que tu sois le maître de l'Église. Bénis, Seigneur, ta parole ce matin, qu'elle nous fortifie, et Seigneur, que nous sachions nous les remettre en perspective pour marcher chaque jour en nouveauté de vie et pour que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Garde-nous, Seigneur, de la vue des choses vaines de ce monde. Garde-nous des ruses du malin. Garde-nous, Seigneur, de notre cœur, de notre nature pécheresse. Visite-nous, renouvelle nos forces et permet que nous soyons unis, debout, pour glorifier ton Saint-Nom dans ce monde qui se perd. Amen.